Bernard Harcourt, bonjour.
Bonjour.
Dans Counter-Revolution, vous détaillez comment, au fil des années, après les guerres coloniales, puis le déclenchement des guerres contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre, une nouvelle façon de gouverner s'est imposée aux États-Unis. Le sous-titre de votre livre illustre cette évolution, comment notre gouvernement est entré en guerre contre ses propres citoyens. Et ce que vous décrivez, c'est le passage progressif d'une guerre à l'étranger, contre une armée étrangère, à une guerre sur le territoire américain, avec la désignation d'un ennemi intérieur. Et vous soulignez l'importance dans ce processus de l'émergence de la guerre contre-insurrectionnelle ou guerre moderne.
Oui, vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'était une logique, une nouvelle manière de faire la guerre, mais aussi de gouverner. Une manière de gouverner à travers ce qu'on appelait en France la guerre moderne.
Peut-être qu'il faut revenir justement sur les caractéristiques de cette guerre moderne.
Oui, exactement, parce que c'est ça la chose la plus importante. C'était la guerre moderne vraiment a été développée par les Français en Algérie, en Indochine, par les Anglais en Malaisie, par les États-Unis au Vietnam. Donc c'était une nouvelle manière de faire la guerre qui n'était pas, bien sûr, les grands champs de bataille de la Première Guerre mondiale ou avant, ou des guerres napoléoniennes, mais une guerre contre-insurrectionnelle, donc une guerre qui se faisait contre des petits groupuscules d'individus en révolte, en Indochine, en Algérie. Il s'est développé une nouvelle manière de faire la guerre, qui avait trois parties. La première partie, c'était d'essayer d'accumuler toutes les informations possibles sur la population entière, pour essayer ensuite d'identifier une petite minorité d'insurgés, la petite minorité active de révolutionnaires, ensuite de les cibler, de les éliminer radicalement, de les liquider, franchement, et puis finalement d'apaiser la population passive, donc cette notion d'une population qui ne s'était pas impliquée, qui pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Et donc c'était vraiment la stratégie dans la bataille d'Alger, par exemple.
Qui est très bien décrite, effectivement, dans un certain nombre d'écrits de militaires français et qui ont pu inspirer l'armée américaine.
Oui, alors c'est ça qui est particulièrement fascinant. C'est que, en fait, les écrits, par exemple, d'un commandant français, qu'on appelle avec un accent américain, David Galula, mais qui était français, les écrits de David Galula sont venus aux États-Unis avant de rentrer en France. Ils ont été traduits en français seulement dans les 2008-2010. Mais alors, ces textes de David Galula qui démontraient comment faire la guerre moderne ont été publiés en anglais par The Rand Corporation, qui est vraiment à développer tant de stratégies militaires, que ce soit le nucléaire ou la guerre moderne aux États-Unis. Et donc ça a été traduit ici en 63. David Galula avait été amené aux États-Unis pour conseiller aussi. Il enseignait un peu à Harvard d'autre part. Et c'était ses écrits qui ont vraiment donné naissance à cette notion de guerre moderne, guerre révolutionnaire. Et ça a influencé la manière de faire la guerre au Vietnam. Ensuite, on n'en a entendu plus parler jusqu'au 11 septembre, jusqu'au 9-11, comme on dit aux États-Unis. Et à partir de 9-11, tout d'un coup, il y a eu un retour à toutes ces stratégies. Et c'est là où le grand général américain David Petraeus, qui était en charge vraiment de toutes les forces américaines en Irak, a écrit un manuel, The Counterinsurgency Manual, pour l'armée américaine. Et c'était ce manuel, ce guide, qui a été utilisé pour faire la guerre, mais aussi pour gouverner l'Irak. Et c'était là où, tout d'un coup, on mettait ensemble à la fois l'identification de l'ennemi interne, mais aussi comment pacifier la population, comment faire qu'on gagne vraiment, en anglais on appelait ça « the hearts and minds », le cœur et l'esprit de toute la population. Et ça, c'est une forme de gouvernance. Et c'est comme ça qu'après 9-11, c'est revenu aux États-Unis et qu'on a vu ça comme une manière de gérer sa propre population.
Ce que vous dites, c'est que les pièces de ce puzzle se sont en fait parfaitement emboîtées aux États-Unis après le 11 septembre.
C'est ça, c'est exactement ça. Ça a commencé avec les interventions en Irak. Et donc on a vu toutes les stratégies, toutes les tactiques de la guerre moderne déployées dans la guerre en Irak avec avec l'utilisation de la torture, par exemple, l'utilisation de la détention indéfinie à Guantanamo. Tout ça, ça avait été utilisé en Algérie. Bien sûr, ce sont des moyens d'extraire de l'information qui n'est pas fiable, comme on l'a très bien vu avec toutes les soi-disant confessions à Guantanamo. Mais, je veux dire, c'était une manière d'extraire toute l'information et puis ensuite d'éliminer cette petite minorité, que ce soit de les déplacer à Guantanamo pour qu'on n'en entende plus jamais parler, ou bien d'utiliser des formes de torture qui finissaient par tuer l'individu. Et donc, voilà, on a vu sous le président Barack Obama l'utilisation de drones pour éliminer les individus identifiés, la petite minorité active, l'utilisation de la surveillance totale sur les populations étrangères. Donc, on captait toute l'information. Il faut bien comprendre que la NSA essayait de capter absolument tous les microbytes, toute l'information, tout le data à travers tout le monde. Hein. Mais c'était ça la logique, d'avoir total information awareness. Et, mais ce qui est remarquable, c'est pas seulement total information awareness sur une population ciblée ou sur une minorité, mais sur toute la population. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'était ça qui est revenu aux États-Unis.
Avec aussi, la, finalement, même aux États-Unis, la désignation d'une minorité active ou d'une minorité radicale.
Oui, c'est exactement ça. Le fait même, par exemple, qu'il y avait tellement de soldats qui ont été entraînés dans le counter-insurgency strategies, qui sont revenus aux États-Unis, font partie de l'appareil sécuritaire, ils sont peut-être dans la police, etc. Donc, qui font partie donc, de la sécurité et qui, ensuite, ont internalisé cette logique d'un ennemi interne dangereux qu'il faut éliminer pour pacifier le reste de la population. Et on l'a vu très bien, d'abord avec le début de commencement d'utilisation de drones par la police au Texas, par exemple, par l'utilisation d'un appareil paramilitaire en confrontation avec les gens qui manifestaient. On a vu ça à Ferguson, par exemple, à Baltimore, toutes ces images où on voit la police qui est habillé en, quasiment en militaire, on ne pourrait pas faire la distinction entre un policier anti-proteste, par exemple, à Ferguson, et quelqu'un qui se retrouverait en Afghanistan. Vraiment, ils sont habillés exactement de la même manière. Ils ont des scopes, des rifles, ils ont des, l'équipement est identique, hein, et qui font face à des gens en t-shirt qui manifestent pour Black Lives Matter aux États-Unis. Donc on a vu cette création d'ennemis internes avec l'ex-président Donald Trump en particulier. La création d'ennemis internes, c'était son outil favori d'essayer de capter l'imagination américaine. Ce qu'il avait dit sur les musulmans, c'était absolument ahurissant. Avant qu'il passe cet ordre exécutif contre les six nations majoritairement musulmanes, qui ne pouvait plus voyager aux États-Unis même, mais tout le langage qu'il avait utilisé contre les musulmans, c'était vraiment un langage de la guerre moderne. La même chose dans le langage de Trump sur les Mexican Americans, ou bien les immigrants, ou bien ce qu'il appelait la caravane, qui était vraiment cette image d'une caravane qui allait nous attaquer. C'était l'ennemi, quoi. C'était l'ennemi. Et du reste, avec Donald Trump, c'était, il avait aussi ciblé les leaders du Black Lives Matter Movement. Donc la création de nouveaux ennemis internes, c'était précisément cette stratégie pour gouverner. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ça a tenu 20 ans, parce que c'est vraiment après 9/11 que ça a commencé. On a vu des variations, des itérations différentes avec George Bush. C'était une version beaucoup plus brutale, violente, physique. Donc c'était de la torture, c'était Guantanamo, c'était des black sites.
Hein. Des sites de torture clandestins.
Exactement. Avec le président Barack Obama, c'était plutôt des attaques de drones, ciblées même contre quelqu'un de citoyenneté américaine à l'étranger, l'utilisation de Total Information Awareness pour recevoir toutes les informations autour du monde. Donc c'était un caractère un peu différent, un peu plus légaliste sous Barack Obama. Et puis bien sûr, sous Donald Trump, on a vu ça vraiment revenir sur le terrain américain avec cette stratégie de vilifier qui que ce soit américain, qui soit d'origine musulmane, ou bien d'origine latino-américaine, ou bien afro-américaine, vraiment.
Merci Bernard Harcourt.
Merci à vous.